Je vous invite de tourner dans vos Bibles à Actes chapitre 16, parce qu'on est revenu à notre étude, si vous voulez, à travers les épîtres, à travers les actes des apôtres. J'avais constaté depuis le tout début que le titre de Actes des apôtres a été donné plus tard. On ne considère pas les noms des livres de la Bible comme inspirés par le Saint-Esprit, mais comme simplement indicatifs avec une étiquette que les hommes ont mis pour qu'on sache où aller dans la Bible. 66 livres dans ce bibliothèque, n'est-ce pas? Mais un meilleur titre aurait pu être les actes du Saint-Esprit à travers les disciples. Et quelqu'un avait suggéré un meilleur titre encore aurait pu être les actes de Jésus-Christ qui règne à côté du Père à travers le Saint-Esprit qui mène ses disciples pour faire son œuvre. Et nous sommes arrivés, donc, depuis Pentecôte, il y a une vingtaine d'années maintenant, à Antioche, loin de Jérusalem, 500 kilomètres vers le nord de Jérusalem, et l'église gentile, l'église non-juive, qui incluait aussi des juifs. Mais maintenant, il n'y a pas de juifs en Christ. Il n'y a pas de païens. Il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de rang social. Il n'y a pas de supériorité ou infériorité de la masse, du sexe masculin ou sexe féminin. On est tous égaux en Christ qui nous a sauvés par sa grâce. Dans le 16e chapitre, nous sommes arrivés à une époque un peu perplexe pour l'apôtre Paul. Vous allez vous rappeler qu'en 15, à partir de 36, il y avait un dispute qui causait la séparation entre Barnabas et Paul, qui étaient cloués comme des collègues du travail. Et maintenant, une dispute qui est arrivée par rapport à ceux qui devraient leur accompagner est arrivée. Le but, c'était de aller en Chypre et de, en fin de compte, répéter le voyage qu'ils avaient fait avant, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé ici par Antioche de Syrie. Vous savez, ça, c'est 500 kilomètres de Jérusalem. Maintenant, c'est ici. Ils sont partis à travers tout le Chypre, 6 mois peut-être, ou plus, évangélisant, formant les églises. Et puis, aller ici, dans la région de Galatie, et ils ont continué leur voyage à travers jusqu'au Derbe, rentré à Iconium et Lystre, où Paul a été lapidé, et puis rentré par là encore. Et le but, c'était de refaire ça. Paul disait, j'ai vraiment envie, après 2 ans peut-être, après un peu moins de 2 ans, Paul dit, j'ai envie de voir comment vont les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, comment vont les églises qui ont été établies, est-ce qu'ils sont droits dans le chemin de Jésus-Christ, marchant par la foi en lui seul. Barnabas a dit, moi aussi je veux y aller, mais je veux qu'on mène Jean-Marc. Et vous vous rappelez en chapitre 13, Jean-Marc avait quitté en plein milieu de leur voyage et avait
gâché pas mal de choses. Et Paul dit, non, il ne peut pas revenir. Jean-Marc s'est disqualifié. Il s'est détourné du chemin. Barnabas dit, non, mais quand même, maintenant, il faut donner une deuxième chance. Et à cause de ceci, ils se sont disputés. Et Barnabas est rentré avec Jean-Marc à Cypre pour refaire le tour. Paul a choisi Silas. Ils sont allés dans l'autre sens. Et donc, ils sont partis, arrivés là où ils avaient terminé la dernière fois, le premier voyage. Et qu'est-ce qui rencontre que Timothée? Et Timothée sera la seule personne qui va, pendant le restant de la vie de l'apôtre Paul, être fidèlement à son côté et jusqu'à la fin. Donc Timothée a joint l'équipe. Ici, il y avait Paul, il y avait Silas, il y avait Timothée, et il y a Luc aussi. Et vous dites, mais c'est où Luc? Luc s'est joint l'équipe à partir du verset 10. Son nom n'est pas là. Mais nous savons qui c'est l'auteur de les Actes des Apôtres. C'est Luc, n'est-ce pas? C'est intéressant, quand on arrive à verset 10, ayant reçu cette vision de l'homme de Macédoine, Paul, nous cherchons aussi à nous rendre en Macédoine. C'est la première fois que nous voyons cette première personne plurielle. Avant, c'était la troisième personne. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et d'un coup, ça commence par dire, nous avons fait ceci. Et ça va continuer. Verset 11, étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Nous étions à court de la rivière, en verset 13, etc. Donc, pour le restant de ce voyage et d'autres places en Luc, en Actes des Apôtres, Luc est présent. D'où il est venu, nous ne savons pas. Nous savons que Paul et Barnabas étaient juifs, Timothée était moitié juif et moitié païen, ou moitié gentil, Luc était à 100% gentil. On a plusieurs idées. Certains pensent que quand Paul était arrivé à Troas, où il va être dans quelques versets, il était malade, il n'est pas allé dans cette région de Bithynie comme il avait prévu. Il avait des grandes idées d'évangéliser tout au nord, mais la Bible dit, tu ne peux pas, le Saint-Esprit, verset 6, l'avait empêché de faire ça. Donc il avait envie d'aller vers le Bithynie, Messie, mais verset 7, l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis. Il cherchait d'aller comme ça, d'abord comme ça, cherchait d'aller comme ça. Dans les deux cas, le Saint-Esprit l'a interdit. Il va aller donc jusqu'ici, parce qu'il n'a pas été interdit. Ça, c'est une chose à noter ici. Il est allé parce qu'il n'a pas été interdit. Il cherchait à gauche et à droite à évangéliser, mais d'une manière ou l'autre, le Saint-Esprit l'arrête. Il faut comprendre que Luc est en arrière et maintenant il est fini et Luc dit que c'était le Saint-Esprit. Mais on ne lit aucun passage où dit, écoutez, il y a un message du Saint-Esprit qui arrive. Attention, non. Ils planifiaient, ils faisaient des stratégies, ils essayaient de faire des choses. Certaines choses marchaient, certaines choses ne marchaient pas. Certaines portes s'ouvraient, d'autres portes fermaient. Les portes qui voulaient le plus à s'ouvrir ne s'ouvraient pas. Où est-ce que Luc est devenu? Certaines théorisent que Paul était malade, et nous savons que Paul était malade en Actes chapitre, dans le livre de Galates, parce que Paul disait, vous le savez, depuis la première fois que je suis venu, je suis parmi vous parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'étais malade. Ah, peut-être un membre de l'église, écoutez, je connais un médecin. Il est chrétien. On va aller chez le médecin. Il est allé chez le médecin, il y avait Luc. Luc était un chrétien qui voyait Paul, qui voyait ce que le Seigneur voulait pour Paul, qui disait, Paul, tu es malade, hein? Il faut que j'aille avec toi. C'est peut-être ça. J'ai lu quelqu'un qui proposait l'idée que peut-être c'est Luc la personne dans la vision en verset 9. Où il disait, venez au secours pour nous aider en Macédoine. Et le lendemain, il va chez le docteur, et voilà, c'est la même personne dans la vision. Bon, aucune raison de spéculer comme cela, mais Luc, d'un coup, est là. Il a rencontré quelque part, après l'herbe, et probablement à Troas, parce qu'il a terminé par aller à Troas. Et c'est là où commence notre lecture aujourd'hui. Paul avait été utilisé par le Seigneur, arrêté par le Seigneur, avancé par le Seigneur, perplexe par certaines choses, malade, sans doute travaillé par ses disputes avec Barnabas. Tout n'était pas rose pour lui, mais convaincu que le Seigneur était en train de guider son chemin. Et j'ai mis une citation ici par J. Campbell Morgan qui disait, après toutes ces perplexités, après toutes ces indécisions, avec toutes ces décisions bien faites, mais tombées dans l'eau, Paul a commencé le voyage à partir de Troas. Commencer le voyage en désirant revoir les églises déjà fondées. Il a fini à Troas avec une vision, une surprise, un nouvel appel, une porte ouverte, des vastes étendues qui s'étirent devant ses yeux, la possibilité de nouvelles œuvres et avec la conviction que c'était la pensée du Seigneur. Il a dû certainement apprendre beaucoup de choses à partir de pendant ce voyage avant d'arriver à Troas. Et maintenant, il arrive à Troas. Je crois qu'il y a trois principes qu'il a dû apprendre et que nous allons voir à travers le reste du livre de l'Acte, de Actes des Apôtres. Le fait que Dieu œuvre sa providence. Qu'est-ce que c'est la providence? La providence, c'est Dieu qui prend les choses naturelles pour accomplir sa volonté. C'est pas un miracle. Dieu fait des miracles aussi. Dieu travaille parfois par miracle, mais normalement par providence. C'est-à-dire, à travers des circonstances variées. Écoutez cette histoire. Je veux que les enfants écoutent. Où sont les enfants? Levez la main. Tous les enfants à partir d'une douzaine d'années jusqu'en bas. Alors, écoutez bien. Et vos parents, ils peuvent écouter s'ils veulent. Alors, vous êtes un forgeron. Ça, c'est celui qui fabrique des choses en métal. Et vous êtes en train de faire un fer à cheval pour mettre sur les pieds des chevaux, n'est-ce pas? Vous êtes en train de faire ça. Il faut que ça soit très, 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 très chaud. Vous martelez sur un morceau de fer à cheval qui est très chaud et blanc de chaleur même. D'un coup, le fer rebond et ricoche contre votre jambe. Aïe, vous êtes brûlé assez gravement. Et dans votre hâte de vous en occuper de votre jambe, vous laissez le fer à cheval à côté, inachevé. Vous demandez pourquoi Dieu permettrait que vous soyez blessé. Mais vous savez que Dieu est souverain et que dans sa providence, il n'y a pas de hasard. Dites ça, les enfants avec moi. Il n'y a pas d'hasard. Non, il n'y a pas de hasard, je crois. Allez, il n'y a pas de hasard. Encore une fois. Il n'y a pas de hasard. Alors, ayant soigné votre blessure, vous retournez à votre travail en chantant. Dans l'assurance que vous êtes en plein centre de la volonté de Dieu. Votre assistante ne sachant pas que le fer à cheval que vous avez mis du côté non achevé était non achevé, il le ramasse, il arrange avec les autres déjà terminés. Tournez la page. Changez le chapitre. Plus tard, il arrive une invasion de votre pays par un ennemi hostile. Il y a une puissante armée. L'armée arrive dans votre ville, exige que vous leur donniez de quoi manger. Après manger, le commandant ennemi exige que vous donniez les fers à cheval pour des chevaux de ses soldats. Vous obéissez, bien sûr, n'est-ce pas? Le forgeron du commandant d'ennemi fixe les fers à cheval sur les pieds de tous les chevaux. Il ne remarque pas qu'il y a un fer à cheval qui n'avait pas été achevé. Et cela, au hasard, parce qu'il n'y a pas d'hasard, n'est-ce pas? Il le met sur le cheval du commandant. Dans la bataille décisive contre les troupes fidèles qui défendent votre ville, le commandant de l'ennemi mène la charge finale. Le fer à cheval non achevé, donc faible, craque. Et au même moment s'accroche sur une racine d'un arbre qui cause la chute de son cheval. Le commandant s'écrase contre terre, ses propres soldats galopant en pleine vitesse jusque derrière lui, piétinent le commandant à mort. Sa mort précipite une grande confusion dans les rangs. Les défenseurs en profitent de mettre en déroute l'ennemi. La patrie est sauvée. Bravo. Et tout commence par un petit accident dans votre atelier. Et voyez les milliers d'incidents à travers ce moment jusqu'à cela. Comme vous avez un appareil de photo numérique, clic, 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 depuis le fer à cheval qui a blessé votre jambe jusqu'à là, clic, 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 et vous, si vous enlevez la photo où le fer à cheval est tombé, rebondé, ricoché contre votre jambe, il n'y aura pas de victoire. 5 mois plus tard, ou 6 mois, ou 1 an, je ne sais pas. Parce que Dieu, dans sa providence, a arrangé ça pour qu'il y ait après ça, votre assistant qui met ça à côté, et qui mène à ça, et à ça, et à ça, jusqu'à ce que ça soit mis sur le cheval du commandant, jusqu'à ce que le commandant soit piétiné par les soldats à cause de votre fer à cheval. Alors ça, c'est une petite histoire depuis la première photo jusqu'à la dernière, parmi des millions et des millions et des millions et des millions des histoires. Et c'est un principe que l'apôtre Paul a compris. Et que beaucoup d'autres serviteurs de Dieu à travers la parole de Dieu a compris. Il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle, et ça va se voir à travers le reste de tous les chapitres, y compris le chapitre qui est devant nous. Et maintenant, lisons à partir du verset 11. Et gardez cette... juste les deux autres principes qu'on va voir, parce que je vais pas revenir à ceci pour aujourd'hui, je vais juste mentionner cela à la fin. La première chose, donc, Dieu œuvre sa providence à travers des circonstances variées de chaque personne. Deuxièmement, Dieu sauve par son évangile unique. Il y a un seul moyen de salut. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Avec tout ce qu'on entend de la pluralisme de religion, la foi chrétienne est très exclusive. Jésus disait et il dit, rien, personne ne vient au Père que par moi. Il a dit ça parce que personne ne vient au Père que par Jésus. Et troisième chose qui va se voir, ceux qui l'entendent répondent par recevoir ou rejeter. Il n'y a pas une troisième catégorie. Quand l'évangile de Christ est présenté, tous acceptent ou rejettent. Et avec cela, je ferme ça et je lis le passage. Alors, je vous invite de regarder avec moi à partir de verset 11. Actes chapitre 16, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers le Samothrace et le lendemain, nous débarquions à Néapolis. Vaut mieux peut-être que j'aille en arrière aux cartes. Si vous voulez voir, nous avons quitté Troas et nous sommes allés à Néapolis, c'est ça, Philippe, c'est ça. On va y arriver, en verset 9, en verset 13, verset 11. Nous sommes débarqués à Néapolis, de là nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. C'est-à-dire, Philippe, qui était nommé par le papa de Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine, qui avait vaincu le territoire, après quoi le Romain avait vaincu le territoire, et maintenant ça s'est devenu une colonie. C'est pas la même chose que nous pensons à colonie. Il y a des colonies françaises qui ne sont plus des colonies, mais qui pendant le temps sont devenues autonomes. Maintenant, c'était pas ça. C'était comme un petit Rome, loin de Rome. Était entièrement romain, gouverné par Rome, dirigé par Rome, et tout le monde devait être sous les lois de Rome, en Philippe. N'oubliez pas que Silas était romain. Ça, c'était un avantage de ce dispute difficile qui venait de cela. Silas était un romain, Barnabas n'était pas un romain, et nous allons voir plus qu'une fois, au moins deux fois, où ils en avaient besoin de leur citoyenneté romain, tous les deux. Ils sont venus à Philippe, première ville de district, une colonie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils arrivaient? Ils arrivaient au début de la semaine, et Paul est très zélé pour annoncer l'évangile. Paul est quelqu'un qui ne gaspille pas son temps. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils arrivaient? Réponse, rien. Nous passons quelques jours, et le mot « passer » est un mot qui veut dire « on a passé du temps ». On a tourné les pouces, si tu veux. On n'avait rien à faire, parce que ce n'était pas le moment. Ça, c'est une chose, souvent quand on cherche à suivre le Seigneur, il faut simplement parfois qu'on attend, il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi il n'y avait rien d'autre à faire? parce que, nous lisons, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. Pourquoi sont rendus hors de la porte vers une rivière? Parce qu'il n'y avait pas de synagogue. Qu'est-ce que c'est un synagogue? Il y avait le temple à Jérusalem, un seul lieu, le demeure de Dieu, suivant les Juifs. C'est devenu un lieu très très sacré. Étienne, le premier diacre de l'Église, a été lapidé parce qu'il osait suggérer que Dieu n'a pas besoin d'un temple fait par les mains d'hommes. Mais Dieu était omniprésent. Ils ont lapidé pour oser de dégrader le lieu sacré où Dieu demeurait, et rien que dans le temple. Après la dispersion, après que les Grecs, pendant la persécution, étaient envoyés à gauche et à droite, s'il y avait 10 hommes dans une ville, il y aurait un synagogue. 10 hommes ensemble pour discuter le Torah, constituer un lieu sacré, à part le lieu du temple, pas sur le même niveau du temple. Donc, 10 hommes dans n'importe quelle ville, loin de Jérusalem, avaient le droit de construire un bâtiment ou louer une chambre quelque part dans la ville et se rencontrer d'une manière régulière dans le synagogue. S'il n'y a pas 10 hommes, hélas, ils ne pouvaient pas se rencontrer dans un synagogue, mais ils se rencontraient quand même. Et normalement, c'était auprès d'une rivière. Pourquoi près d'une rivière? Parce que avec le rite cérémonieux qui exigeait du lot, des gens iraient à la rivière. Il y a un psaume qui est très intéressant, qui en parle pendant la captivité babylonienne, c'est 137, je veux juste le premier verset, qui dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assises et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » En Babylone, il n'était même probablement pas permis de construire des synagogues, mais sur les bords des rivières, à gauche et à droite, quelques petits groupes de juifs, ils se mettraient ensemble pour prier, pour écouter, réciter le Torah, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, etc. Et c'est ce qu'ils pratiquaient maintenant. À Philippe, il n'y avait pas 10 hommes. Donc la communauté juive était tout petite. Donc ils ont passé leur temps, parce que s'il y avait un synagogue, ils seraient allés directement au synagogue. C'était le pratique de Paul. Il y aurait quelqu'un, il aurait pu établir une base, parler avec eux. Paul était un pharisien. Il avait le droit de parler. Normalement, quand il y avait un visiteur pharisien qui arrive en synagogue, il est par respect demandé de se lever pendant le culte et de donner quelques mots d'exhortation, même une grande prédication. Ce que Paul faisait, on a déjà vu dans l'Acte des Apôtres. Il profitait de son état officiel, teneur de certificat, si vous voulez, qui avait étudié au pied de Gamaliel, le professeur le plus élevé, dans le plus renom dans tout le judaïsme. Paul était un de ses étudiants. Et puis, il profitait de cela, il allait toujours, pour commencer, chez les synagogues. Et il n'y en avait pas. Il ne voyait aucun juif du tout. Il ne savait pas comment commencer, comment faire. Ils attendent le sabbat. Quelques jours, donc. Début de la semaine, ils sont arrivés sans doute. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendions hors de la porte, vers une rivière, et nous pensions se trouver un lieu de prière quelque part. Oui, on a trouvé. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Il n'y avait que des femmes. Mais où est cet homme qui avait plaidoyé? Et nous n'avons pas lu le verset. J'ai juste fait référence, mais verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous, viens nous prêcher l'évangile.
Et c'est pour cela que Paul, qui a voulu aller ici, a voulu aller, il n'a pas pu être forcé d'aller jusqu'ici en Macédoine. Ça, c'est la Macédoine.
Donc Paul est allé là. Où est cette personne? Il ne le voyait pas. Sans doute quand il tournait les pouces pendant les premiers, le fin de la semaine avant, ils attendaient que cette personne arrive. Il n'est pas arrivé. Ils sont allés donc pour trouver ce lieu. Il n'y avait que des femmes. Et vous dites, pourquoi tu dis que des femmes, Robert? C'est 2012. Oui, mais je parle sur cette époque. Et je parle aussi sur la mentalité de l'apôtre Paul et de tous les juifs qu'ils avaient avant de devenir chrétiens. Savez-vous que prit un juif orthodoxe, un homme? Je me demande s'il prit cela encore aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas, surtout chez des très orthodoxes. Chaque matin, il prit, « Ô Jéhovah, Yahvé, je te remercie que je ne suis pas une de trois choses. Je ne suis pas un gentil, un païen. Je te remercie parce que je ne suis pas un esclave. Et je te remercie parce que je ne suis pas une femme. » Paul priait ça tous les jours de sa vie, avant sa conversion. Certains priaient pendant un certain temps après aussi. Et nous avons vu que le changement entre ceux qui croyaient en Christ n'était pas si noir et blanc comme cela. Ça prenait des années avant que certains juifs, je crois, véritablement chrétiennes, pouvaient accepter certaines gentils païennes qui n'ont pas été circoncis, qui n'ont pas observé certaines de leurs rites, même qu'ils avaient terminé par comprendre qu'on n'est pas sauvé par ça quand même. Il faut ne pas oublier notre racine. Il fallait du temps. Paul qui va plus tard écrire, en Christ il n'y a pas de femme, il n'y a pas de homme, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de libre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Il cherchait sans doute des hommes, parce que quand même, ce sont des hommes, pas parce que les hommes sont supérieurs, mais parce que dans l'ordre de hiérarchie, le gouvernement de la famille, un homme doit tenir le leadership avec sa femme, mais c'est lui qui doit être, et c'est l'homme qui doit être le pasteur, et c'est l'homme dans une église, pas parce qu'il est supérieur, mais parce que c'est son rôle, c'est ce qu'il est appelé. Dieu nous a équipés tous pour agir différemment. Il y a le rôle masculin, il y a le rôle féminin, il y a des choses que les femmes font beaucoup mieux que les hommes pourraient jamais faire, et vice-versa. Et gouverner les établissements de Dieu sont toujours les hommes. Donc ils cherchent des hommes, pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce que c'est avec eux qu'ils doivent s'établir pour continuer son évangélisation. Et il y a des femmes. Paul s'assoit, il parle avec des femmes qui sont réunies, et verset 14, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre. Lydie, c'est la première de trois personnes que nous voulons voir dans notre texte aujourd'hui. Les trois premiers chrétiens en Europe. Elle vient de la ville de Thyatire, vers l'ouest d'ici. Il y a cette région de Lydie, elle s'appelle aussi Lydie, et Thyatire, je ne le vois pas pour l'instant, mais c'est à peu près quelque part ici. Lydie venait de là, elle était une marchande de pourpre, elle était une femme craignant Dieu, et elle écoutait Paul et Silas quand ils prêchaient, et Luc et Timothée. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Première personne. Continue la lecture. avec une deuxième personne. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Qu'est-ce que c'est l'esprit de python? Il y avait dans la mythologie grecque un python qui était considéré sacré, et dans un, ils avaient même un temple pour lui. Il avait été tué par Apollo dans la mythologie. Et l'esprit de ce python allait toujours dans une prêtresse, une femme qui pourrait prédire l'avenir. Les gens croyaient que cette femme était la prêtresse. Elle avait cet esprit, elle pouvait deviner, procurer un grand profit à ses maîtres, parce que tout le monde venait pour savoir ce que serait leur futur. Ça fait penser de ce qu'on a, l'horoscope aujourd'hui, on a des médiums et beaucoup de choses, parce que des gens cherchent à connaître ce qui m'arrive. Et Deutéronome et différents passages dans l'Ancien Testament est très clair. Dieu voit cela comme une abomination. Et Dieu aurait pu dire ce qui serait dans le futur, et parfois il annonce certains événements. Jamais toutes les photos, milliers de photos. Nous pensons très souvent, oh si seulement je pourrais connaître l'avenir. Si c'est moi le forgeron, ou toi le forgeron, sur ce fer à cheval, aurais pu tout savoir en avance. Tu aurais pu glorifier le Seigneur bien en avance, tu aurais pu avoir beaucoup de foi. Peut-être, mais je doute. Parce que si nous pourrions connaître le futur, vous ne pourrez pas le supporter. Je vais vous montrer une illustration qui arrive juste à l'esprit comme cela. Quand on était jeune, on a appris que si vous mettez une batterie dans la bouche, une petite pile dans la bouche, ça choque. Ça ne fait pas mal, mais ça choque. On faisait ça si on osait. Mais la première fois, on était tellement choqués, pas péniblement, que la deuxième fois, on était toujours plein d'appréhension. On n'a pas voulu. Il y a mille choses comme ça dans votre vie, que si vous saviez que cette inconvénience ou cette petite douleur, quand on donne une piqûre, Thierry a commencé de donner des piqûres, si vous en aurez besoin, venez voir Thierry. Mais franchement, normalement il dit regarde vers là, et puis top. Mon père, quand il était dans le militaire, dans la Deuxième Guerre mondiale, il disait, il voyait des grands hommes très machos qui tombaient dans le plomb, juste avant que l'infirmière mettait le piqûre dans son bras. Ça me fait pas mal. Mais il savait ce que venait. Et si Dieu vous permettait de connaître les tout petites peines de l'avenir, vous feriez sans doute la même chose, sans parler des peines un peu plus fortes, ou beaucoup plus fortes. Dieu nous garde ignorants de l'avenir parce que Dieu veut que nous soyons dépendants sur lui et que nous apprenions qu'il est souverain et il va agir et on n'a rien à craindre. Alors cette deuxième personne, encore une femme, donc les deux premières personnes que Paul se rencontre sont des femmes. Il y a plus que deux parce qu'il y avait un groupe de femmes autour de la rivière. Lydie seule est mentionnée parce qu'elle est convertie sur place. La première conversion. Qui est la première baptisée européenne? Lydie. Et puis cette femme qui avait souvent ce que pensaient des personnes, l'esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-delà, au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre. À nous suivre, dit Luc. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annonce la voie du salut. Qu'est-ce qu'elle disait? Il faut que je répète, peut-être il dit, ils ne sont pas de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu, quel Dieu? Le Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi donc, après plusieurs jours de cela, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, pas à la femme, à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Je vous laisse réfléchir un peu, parce qu'on reviendra. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent Paul, je suis à verset 19, vous le voyez, se saisirent Paul et Silas, les traînèrent sur la publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs. Prêteurs, c'était les grands chefs, les magistrats, en disant, ouvrez les guillemets, ces hommes troublent notre ville. Qui sont? Ce sont des juifs dégoûtés par les païens, non chrétiens. C'est eux qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Est-ce vrai? Oui, c'est en partie c'était vrai, parce qu'il était illégal de suivre une religion qui n'était pas déjà autorisée par l'État. Et l'État de Rome était assez large, à condition que tu mets l'empereur en première place de toutes tes divinités. Vous pouvez avoir autant de divinités après ça que vous voulez. N'oubliez pas, c'est César en premier. Donc il y avait plein de religions qui exercer librement, sous condition que il ne désacrait pas la divinité assumée de César. Un chrétien ne pouvait pas faire cela. Mais ce n'était pas le problème ici. Le problème n'était pas une question de religion. Le problème, c'était une question d'argent. Sous couvert une excuse religieuse, la foule se souleva contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ce n'était pas juste des petits coups, c'était très 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 grave. C'était des choses, parfois il y a des personnes qui, s'ils étaient faibles, qui ne vivaient pas après ça, parce que leur dos a été entièrement déchiré en ruban, le sang sortait, et puis ils étaient jetés en prison sans qu'ils soient lavés. Parfois il y a des infections qui arrivent après, et la mort parfois suivait. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Philippe était une ville de retraités militaires romains. Ils ont été pourvus par le gouvernement, s'ils étaient assez forts et costauds, donnés un travail. Probablement c'était un militant retraité qui était le geôlier, content qu'il avait un travail en plus, fier de sa position. Un homme qui n'avait aucune affection envers qui que ce soit, surtout pas un ennemi. Un homme qui voyait la souffrance 100 fois. Il les jetait en prison sans aucune attention à leur douleur. Même plus loin dans la place où il était entièrement obscur et ténébreux, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Et il mit leur cèpe aux pieds. Et les ceps qu'ils avaient plusieurs trous. Et suivant la sévérité de de la punition, il voulait étendre les pieds le maximum possible, le mettre dans les preux pour qu'il reste pendant des jours sans bouger. Et ça produit des crampes et des douleurs intenses. C'était probablement cela qu'ils expérimentaient, sans parler de leurs blessures à cause d'être battus de verge. Et verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Comme vous les enfants, vous avez chanté tout à l'heure quand vous revenez au travail, même vous étiez blessés. Pourquoi vous aviez chanté? Parce que vous étiez convaincus que dans sa providence, Dieu va même utiliser votre blessure pour accomplir son programme et glorifier Dieu lui-même. Paul et Barnabas chantaient. Impensable pour moi. Dans ma lecture de ce que j'ai lu de ces prisons terribles, comment ça se peut qu'ils peuvent chanter? Mais ce qu'ils font, ils chantent des louanges, probablement des psaumes, et les prisonniers les entendaient. C'est un mot assez fort qui dit ils écoutaient pas simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils entendaient. Donc dans les hymnes, il y avait des paroles profondes de Dieu sans doute. Ils étaient en train de prêcher l'évangile à tous les prisonniers. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y avait trois événements, apparemment. Le tremblement de terre, l'ouverture des portes, qui raisonnablement aurait pu arriver à cause du tremblement de terre, mais l'enlèvement de tous les belotes de toutes les personnes ne venait pas à cause du tremblement de terre. C'est un peu comme Pierre en Actes chapitre 12 que nous avons vu, quand il était en prison et d'un coup ses chaînes tombent par terre, la porte s'ouvre, il suivre l'ange jusqu'à la grande porte devant et ça s'ouvre tout seul, comme il y avait silencieusement et ça. Alors, c'était miraculeux, c'était des miracles. Tremblement de terre, peut-être une chose naturelle, toujours quand même dans la providence de Dieu. Mais la chute des chaînes, c'était quelque chose de miraculeux. Combien de prisonniers? Je ne sais pas. Ils étaient tous libérés. Imaginez-vous. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers étaient enfouis. Acte chapitre 12, on parlait de Pierre. Pierre a été gardé par quatre groupes de quatre soldats. Tous les quatre, après la disparition de Pierre du prison, Hérode avait fait une inquisition sur les 16 soldats et leur a fait tuer tous les 16. Parce que leur prisonnier a échappé. À la fin d'Acte des Apôtres, pendant la grande tempête où le bateau commence à s'écraser, les soldats disent « il faut tuer tous les prisonniers, à peine il faut pas une échappe, peu importe la situation, si vous avez la responsabilité de garder un prisonnier et qui s'échappe, mort. » La loi des Mèdes et des Perses, c'est la loi romaine. Alors tous les prisonniers, sans doute, il n'y a pas de question. S'ils sont libérés, ils ne sont pas là. Ils se sont enfuis. Mieux me suicider avec un peu de respect que recevoir ce qui va m'arriver dans quelques heures, ou moins. Il tire son épée pour se faire tuer. Et puis, Paul crie d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ils sont tous là? Est-ce qu'ils ont été convertis? Il ne dit pas, mais sans doute le choc de ce qu'ils voient, le fait qu'ils réalisent que ce n'est pas naturel ce qui nous arrive, que tout, on est tous libérés, c'est un miracle. Les cantiques qu'ils avaient entendus déjà, ce qu'ils avaient déjà entendu a joué un rôle ensemble pour qu'ils refusaient de partir. Paul dit, on est tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Quelle question ! Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 9 mots. Et la réponse de Paul était aussi courte que cela. Paul et Silas répondirent, je ne sais pas si en unisson, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille aussi, s'ils croient ce qui s'était fait. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Deuxième baptisé. Premier converti, une femme. Deuxième converti, il n'est pas marqué que la servante où Paul a exorcé le démon est convertie. Il est difficile de supposer qu'elle n'était pas convertie quand même. Donc il ne dit pas qu'elle était baptisée, mais elle s'arrêtait instantanément de crier diaboliquement, « Voici le grand Dieu, la voix du salut !» Il est très intéressant que à plusieurs reprises dans le ministère de Jésus, il y avait des mauvais esprits qui criaient et qui adoraient dans leur verbal, dans leur réponse verbale, Dieu, et Dieu commande la silence. Dieu n'a pas besoin d'être secondé par Satan. Et c'est ce qui se passe souvent. Ça sera pour une autre fois. Mais Satan, normalement, a deux épées. L'épée de l'agressivité, de force, de destruction, de persécution, et l'épée de apaisement et s'accordement. Satan est prêt de s'accorder avec n'importe quel chrétien à condition qu'il ait permis d'entrer, à partir de quoi il commence à se dévier. Il est prêt à annoncer la bonne nouvelle de votre vocabulaire afin, et s'il est permis d'entrer dans votre église pour pouvoir au fur et à mesure changer la doctrine. Deux grandes épées que Satan utilise presque simultanément souvent dans notre monde aujourd'hui, les deux. Comme Satan, sachant que son temps est presque achevé, il fait à pleine allure l'agressivité, la destruction, la persécution. Il y a plus de gens qui perdent leur vie en tant que chrétiens aujourd'hui que jamais. Et aussi là, semblement, écumunique, un mot qui pourrait être un mot de bien, pour amener tous les gens ensemble pour que l'évangile soit disparu et personne n'est sauvé. Et Satan peut gagner dans les deux. Paul ne permettra ni l'un ni l'autre dans son ministère. Nous n'allons pas aller plus loin aujourd'hui, parce que je vois que le temps passe, mais je veux juste qu'on considère, pour terminer, la conversion de Lydie. Parce que nous avons dans un seul verset, on a trois personnes tellement différentes l'un de l'autre. Nous avons une dame de culture, une jeune fille de bas de la société, la haute société à côté de la basse société, une femme qui était très pieuse, une femme qui était diabolique, une femme qui était très respectée dans la communauté, et une femme qui a été traitée comme de la boue. Une femme qui était propriétaire, une femme qui est propriété. Elle était la propriété de ces autres personnes. Et vous pouvez faire d'autres comparaisons et contrastes. Un homme militaire, rude et dur, sans aucune affection pour qui que ce soit. Lydie qui craignait Dieu, qui n'avait qu'à écouter. La femme qui a dû être exorcée d'un démon. L'homme geôlier qui a dû avoir un tremblement de terre et un danger de sa vie quand toute sa vie est craquée devant lui. C'est plus la peine de vivre parce que je ne vais pas vivre avant qu'il puisse être secoué pour écouter le salut. Quand même, il fallait que tous faisaient ce que faisait Lydie. Lydie commence par avoir un cœur qui craignait Dieu. Elle ne connaissait pas que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Mais vous vous rappelez, à travers ce livre, nous avons déjà vu à plusieurs reprises, quand Paul entrait dans les synagogues, il adressait deux personnes, il adressait des juifs au front, devant de la salle, et il adressait ceux qui craignaient Dieu au fond de la salle. C'était des gens dans les synagogues qui se convertirent de polythéisme païen au monothéisme juif. Ils ne croyaient plus dans beaucoup de Dieu, ils ne croyaient qu'un le seul Dieu, des juifs. Ils n'étaient pas considérés, même en tant que prosélytes, qui était le mot pour eux, ils n'étaient pas considérés donc un vrai juif. Ils pouvaient assister, avoir le privilège d'assister, s'il y avait de la place au fond de la salle. Et ils s'appelaient les ceux qui craignaient Dieu. Lydie n'était pas un juif. Elle était quelqu'un qui avait été converti, ou à Thyatire, je ne sais pas, ou après qu'elle est venue. De toute façon, elle se rencontrait avec des femmes juives. Il n'y avait pas d'hommes, apparemment, jusqu'à maintenant. Il y en aura. Parce que maintenant, il y en a, n'est-ce pas? Il y a un geôlier. Et puis, il allait être tous les trois dans la même église. Quelqu'un dit que Lydie n'est pas allée à une église de grande haute culture ou une église pour les sophistiqués, tandis que la servante dans une église pour les personnes communes, tandis que le geôlier allait à une chapelle militaire. Ils étaient tous dans l'église à Philippe, tous les trois. Mais ils ont tous terminé, s'ils étaient sauvés, par avoir un cœur qui craignait Dieu, qui avait un respect. C'est le premier pas en venant vers le Seigneur pour le salut. De dire « je suis croyant mais pas pratiquant » ne manifeste pas un cœur qui craigne Dieu. Craindre, c'est un mot quand même difficile à comprendre, mais ça inclut un peu la crainte de faire du mal, la crainte de faire du mal à quelqu'un qu'on aime beaucoup. La crainte, comme on disait Samuel ensemble hier, de blesser une personne que vous aimez tant. Et un grand respect pour Dieu. Et nous lisons dans le même verset, regardez, tout ce que je vais voir, c'est dans le verset 13. 14. Lydie, marchande de pourpre, était une femme qui craignait Dieu et l'écoutait. C'est-à-dire, elle avait les yeux déjà ouverts pour entendre. Je crains qu'il y a deux sortes de femmes et hommes dans notre salle, peut-être aujourd'hui, tout le temps. Il y en a qui écoutent parce qu'ils ne peuvent pas ne pas écouter, ils veulent. Il y a d'autres que ça passe ici, ça sort par là, et ça devient une habitude pour vous, certaines. À la fin du message, vous ne l'aurez pas même fait attention à presque rien, vous ne pouvez même pas dire les points forts, grands points du message. Lydie avait des oreilles qui écoutaient. Spurgeon parlait une fois de quand un homme est venu avec sa femme pour écouter l'évangile, et cet homme disait, je vais écouter la musique parce que j'aime bien quand les gens, la chorale et tout le monde chante, mais quand il arrive au message, je vais me bloquer les oreilles. Alors il bloquait les oreilles quand il y avait temps pour la prédication, et il n'écoutait pas ce que c'est, et puis il y avait un moustique qui tournait autour de sa tête. Il faisait... Et finalement, il a fait ça, il a débloqué une oreille, et il a entendu celui qui a des oreilles qu'il entende. Et quand il entendait ça, il n'osait pas reboucher l'oreille. Et il a été converti finalement. Il écoutait quand même pour entendre. Et puis la Bible dit que Dieu l'avait ouvert son cœur. Elle avait un cœur ouvert. Mais ça dit, Dieu avait ouvert son cœur, à moins que Dieu ouvre nos cœurs. Paul a dit, je plante, je sème, Apollos arrose, mais ce n'est que Dieu qui peut faire grandir quoi que ce soit. Dieu a ouvert le cœur et elle était attentive. Et ça ne dit pas qu'elle était impressionnée. L'évangile s'impressionne. La Bible enseigne, il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés pour entendre la promesse. C'est formidable, c'est merveilleux. Ils prennent une décision pour Christ, superficielle, et pendant un certain temps, tout va bien, jusqu'au moment où il y a un problème. Oh, peut-être ce n'est pas si bien que je l'aurais pensé. Peut-être je n'en profite pas autant que j'aurais voulu. Et puis, la Bible dit qu'ils n'étaient pas des vraies personnes. Elle écoutait d'une manière qui était attentive pour qu'elle reçoive l'Évangile. Oh, qu'est-ce que l'Évangile ? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ est venu, envoyé par son Père, pour prendre la punition méritée par la loi divine à notre place, et nous n'avons qu'à croire en Jésus-Christ pour avoir. Paul annonçait ça à gauche et à droite. Il est en train d'envahir l'Europe avec la bonne nouvelle que Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus-Christ est la fin de tout ce que nous faisons. Jésus-Christ est ce qui remplit le trou qui existe dans le cœur de chaque personne, où on cherche à gauche et à droite à remplir. Jésus-Christ est celui. Il faut que vous veniez par la foi en acceptant le don gratuit qu'il offre. Et quand elle a fait ça, elle a été baptisée. La Bible dit dans le prochain verset, baptisée comme une confirmation de ce qu'elle a fait était réel. De sa foi, se faire baptiser devant le public à cette époque était très 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 dangereux et difficile, comme c'est le cas dans la plupart du pays du monde aujourd'hui, 2012, sur cette planète. C'est facile. Maintenant, la seule inconvénient, c'est la désapprobation de certains amis, peut-être le distancement de certaines personnes qui disent « Oh là là, tu vas dans un secte ». C'était un grand secte à l'époque, un secte très 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 suspicieux, soupçonné par les personnes. Néanmoins, ceux qui croyaient en Christ étaient sauvés. Et ma question, est-ce que Christ est votre Seigneur? Premier chrétien, une femme. Deuxième chrétien, une deuxième femme, entièrement différente que la première. Troisième chrétien, un geôlier qui posait la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ce qu'on va examiner plus en détail la prochaine fois. Prions Dieu.